on voit un historique de toutes les lois prohibitionnistes depuis un siècle, parce que ça fait un siècle quand même que des lois se sont acharnées sur l'opium et le pavot, et sur le cannabis dans un deuxième temps. Mais très rapidement après, on rappellera un petit peu tout ça, on verra donc tous ces échecs et tous les dénis aussi, hein, parce que les gens continuent de vouloir faire la même politique, parce que évidemment ça a un intérêt, mais bon, ça n'a pas empêché les superficies cultivées, ça a plutôt empêché les développements alternatifs. On discutera aussi, tout ça sera la seconde partie, puis après on fera plus un tour du monde avec sur l'enquête sur le vol d'héros qui s'est passé au 36 quai des Orfèvres, voilà, on fera le point là-dessus. On ira faire un tour au Brésil où là-bas il y a un nouveau médicament à base de cannabis. On ira faire un tour au Canada aussi où la culture de cannabis thérapeutique est interdite. On ira voir ce qui se passe aussi en Hollande avec les lois sur les gros shops. Et puis bon, je sais pas si on ira jusqu'au bout de notre revue de presse avec quelques petites choses sur les silk cuts, sur les silk road et les coups de théâtre qui en ont découlé. Voilà un petit peu pour ce grand sommaire. Je sais pas si on bloquera pas trop sur les deux premiers articles, ce très intéressant, donc sur le Colorado et sur le bilan des échecs de la guerre à la drogue. Mais bon, on va voir, on va essayer de tenir ça sur cette émission du 19 janvier. Un petit mot,
Non, pas spécialement, tu as fait le tour, donc. Musique, et on revient après la musique, tout de suite après. Donc, la musique va partir. C'est parti!
raconte tout ça, c'est pour montrer qu'on a, en termes de ganja, l'expérience pour se permettre un constat. Crandin, je réfute les propos qui disent que fumeur de choco finit tôt ou tard le nez dans la coco. Regarde nos veines comme nos narines sont toujours restées clean. Crandin, je refuse l'excès inverse. Viens pas me dire à moi que l'herbe est le chemin de la sagesse. J'ai vu des mains dérayées finir internées d'avoir trop noyé leurs problèmes dans des pénuages.
Yes. Alors, on vient de s'écouter Sensimilia.
Oui, on vient de s'écouter Sensimilia avec Histoire de Ganja.
Yes, Histoire de Ganja.
Voilà, donc nous, on va parler un peu d'Histoire de Ganja au Colorado, parce qu'il y a un gros article dans Le Monde
une dizaine de jours,
8 janvier, on n'a pas pu en parler avant. En plus, c'était pas un article accessible à tout le monde, il fallait absolument être dans les abonnés pour pouvoir l'avoir et le consulter dans son intégralité. Et on a pu avoir l'accès à l'article dans son intégralité voilà, ces derniers jours. Donc on voulait quand même en parler et le traiter. Un article qui, en fait, pas un article du Monde directement, c'est un article qui est tiré de M, le magazine du Monde. Voilà.
D'accord.
Et celle ou celui
qui font le...
qui a écrit l'article, par contre, j'ai pas son nom.
Voilà, ils font le bilan après un an de légalisation au Colorado, où le business est florissant. Le cannabis, entendez, évidemment. La weed a changé, a commencé à souffler. Donc, qu'est-ce qui se passe un peu On peut tout voir là-bas. On peut admirer la marijuana en fleurs, la photographier, les éclats brillants de la cristallisation du THC, comme l'expliquent les experts du tétrahydrocannabinol. Puisque maintenant, il y a beaucoup de gens là-dessus. Il y a tout un business qui se tourne. Donc, on trouve tout, hein, aussi bien des herbes que des gâteaux, que des boissons, que des trucs que pré-roulés, que des sucettes, des pizzas. Alors, il y a tout ce qui se fume, tout ce qui est connu ou généralement qui est associé aux fumeurs de joint. Donc, on dit même fumeurs. Mais il y a une multitude d'utilisations de...
Enfin, une multitude de solutions pour se faire du fric avec le cannabis. Voilà. À l'américaine, comme ils savent bien le faire, un pays bien capitaliste, où voilà, tout est possible, tout est envisageable pour gagner du fric avec le cannabis. Donc, effectivement, tu nous parles d'experts ou de... En tout cas, d'experts autoproclamés en je ne sais quoi, THC, fleurs, feuilles, bref.
Ouais, mais on n'apprend pas grand-chose, c'est vrai, mais ça reprend toute la liste de tout ce qui se fait, des sucettes, des pizzas, des pop-corn, des lotions,
même
des huiles de massage.
Des sucettes avant eux.
Tout à fait.
Et qu'en plus, aux États-Unis, globalement, ils ne comprennent pas trop à quelle sauce on doit le manger, même s'ils ne sont pas privés de faire des préparations, mais ils ne sont pas très gastronomes, visiblement. Bon.
Voilà, mais en tout cas, ça fleurit, ça fait de l'argent.
Même des femmes ont un réseau pro-marijuana, Women Grow, ça s'appelle, voilà, qui dispute aux hommes le leadership de l'industrie du cannabis. Ben voyons. Oui, pourquoi ? Oui, non, mais c'est super. Par contre, ça.
Mais bon.
C'est plutôt bien.
C'est un petit peu. Bon, ça rentre dans les mœurs. Les gens font leur coming out cannabique. Donc c'est assez sympa, hein, quand même. Bon, ça évolue. Ça permet de faire évoluer, puisque quand même, il y en a un qui le rappelle, le cannabis continue à être illégal dans 99% du monde.
Oui.
Donc c'est agréable qu'il y ait un petit pourcent. Donc il y a le Colorado.
Et dans 12,5% du reste des États-Unis aussi.
Aussi. D'ailleurs, si les États voisins ont essayé de leur faire des procès.
Ah ben ouais.
Mais bon, pour l'instant, ils pensent être tranquilles parce que La Cour de justice suprême aux États-Unis a eu le même genre de procès sur des États qui ont intenté des procès contre ceux qui avaient des lois trop laxistes sur les armes.
Ah oui, oui.
Et ils ont perdu. Donc, du coup, on pense que ça va faire jurisprudence, sinon ça serait deux poids, deux mesures. Mais bon, c'est vrai qu'on y est habitué avec le cannabis.
Oui, voilà. Oui.
Voilà. Donc, après, qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc, c'est légalisé à peu près de la même façon. Hein. Donc, c'était l'amendement 64 en novembre 2012. Donc, il a fallu le temps que ça se mette en place. Donc, et donc, maintenant, ça fait un an. Et la réglementation est calquée sur la réglementation de l'alcool. Ni plus ni moins. Donc. Voilà, à peu près d'après ce que dit l'article, alors c'est peut-être un petit peu simplifié, mais en tout cas, ça permet de dire ça rapidement. Et bon, et ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est les conséquences. Donc tout le monde, il y avait plein de gens qui avaient promis que le ciel allait nous tomber sur la tête, que ça allait être des gangs dans les rues, des batailles de cartels. Mais a priori, rien n'est arrivé. Au contraire, le nombre d'agressions violentes a diminué de 5,2%. La délinquance a chuté de 10%, plus de 10%. Et il n'y a nulle trace de décadence à Denver. Donc,
ou ailleurs.
Ou ailleurs. Voilà, on ne fume pas dans la rue ou dans les parcs. Et c'est d'ailleurs interdit. Et donc maintenant, les gens ont des nouveaux droits, mais ils font attention d'être respectueux de ces droits pour continuer à pouvoir les avoir. Pour l'État, c'est quand même du bénéfice, parce que bon, il y avait 110, c'était déjà un État qui avait légalisé le cannabis thérapeutique, il y avait déjà 110 000 patients. Et donc maintenant, on estime à 9% de la population, les gens qui fument, soit à peu près 500 000 habitants. Donc sur un pays, sur un État de 10 millions d'habitants, donc ça ferait 3 millions en France, si on faisait la comparaison par exemple. L'État récupère 60 millions, donc ça ferait 60 millions de dollars de recettes, mais bon, il taxerait seulement à 7,2%. Donc en France, on taxerait beaucoup plus fort.
Hein. Ben, il taxe à 7,62 pour le cannabis médical.
Oui, c'est exactement. On ne sait pas combien il taxe l'autre.
Et voilà, on ne sait pas. Et puis alors, tu disais tout à l'heure qu'ils essaient de calquer le modèle de légalisation sur celui de l'alcool.
Interdiction au moins de 21 ans, par exemple, parce que c'est,
oui, mais
c'est de rigueur à bord.
Je ne suis pas certain que... Pour l'alcool, sur les 300 collectivités locales du Colorado, je ne suis pas certain que seulement 60 autorisent la production ou même la commercialisation d'alcool. Or, c'est le cas pour le cannabis.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas consommer du cannabis dans toutes les communes du Colorado, en fait.
Planté. Hein.
Non, mais production,
là, c'est planté.
Et commercialisation. Commercialisation.
Oui.
C'est-à-dire d'accord. qu'effectivement, il n'y a pas des coopératives de. Brasserie de bière ou je ne sais quoi pour du whisky partout aux États-Unis et partout dans le Colorado. Mais je suis à peu près certain que dans chaque commune du Colorado, il y a au moins un pub ou un bar ou je ne sais quoi. Ou un saloon.
Peut-être, oui, sans doute.
Comme ça qu'on dit, mais par contre, pour le cannabis, il y a des collectivités où globalement, ils n'en veulent pas. Donc, et c'est encore pas tout à fait pareil. Quoi.
Il faudrait vérifier,
même
parce que je suis sûr qu'il doit y avoir quand même quelques États très conservateurs où ils interdisent encore l'alcool, c'est possible.
Aux États-Unis ? Alors, il y a quelques villes.
Quelques villes, oui.
Quelques villes, alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais Cincinnati, effectivement, c'était déclaré ville sans vice dans le milieu des années 80. Je me rappelle de Cincinnati, il y en a une autre. Voilà, après... Effectivement, il y en a d'autres qui ont certainement dû suivre. Il y a des États qui se veulent particulièrement sans vice. La Géorgie, par exemple, où, par exemple, la sodomie est un délit et c'est interdit. Voilà.
Ouais. Bon, bref, on s'égare un petit
comme
peu
un
de...
là-bas.
On s'égare un petit peu de tout ça. Hein. On va revenir un
oui,
petit peu.
Oui, mais pas tant que ça, finalement. Bref, oui. Bon. En tout cas, voilà, pour continuer sur le cannabis, là. Et pour montrer que c'est encore pas tout à fait clair et qu'il y a encore une discrimination, bah, y a des propriétaires immobiliers qui conservent le droit d'interdire aux locataires de consommer dans leurs locaux. Je suis pas sûr qu'on peut les interdire de consommer une Budweiser en regardant un match.
Par contre, y a des locaux où il est interdit de fumer des cigarettes aussi. Hein.
Oui, mais alors cigarettes, marijuana, voilà. Mais pour l'alcool, je suis persuadé qu'il n'y a pas de prescription anti.
Tout à fait. Et peut-être même que la quantité qu'on peut acheter d'alcool n'est peut-être pas aussi limitée que celle de la marijuana, puisqu'on n'a pas le droit d'acheter plus d'une once, 28 grammes pour les résidents et 7 grammes seulement pour les
non-résidents.
Non-résidents, un quart d'once donc. Voilà, mais rien n'empêche l'amateur de smurfer. c'est-à-dire d'aller se procurer une dose ailleurs. Voilà, ils sont contents, ils ont un nouveau mot.
Enfin bon, en tout cas, c'est quand même nettement plus progressiste.
Par contre, moi,
qu'est-ce que ça a pu être ?
J'aime bien la phrase d'avant. Après, on va peut-être avancer plus vite. Toutes les sortes de promotions et de produits s'offrent à lui. Indica ou Sativa. La Bubba Tom Haze qui apaise sans endormir. La Green Crack pour les jours où l'on veut se lancer dans un grand ménage, comme dit le vendeur. Le client a-t-il mal au dos, des insomnies ? La Bud Thunder.
Non, le Bud Thunder. Le vendeur.
Voilà, un
tenancier de.
Lui recommande une formule avec comme s'il était en pharmacie. Donc voilà, bon, il y a un petit peu de polémique là-dessus. Mais bon, en tout cas, ça avance. Hein. Il y a le business, il y a aussi tout ce qui tourne autour. C'est-à-dire que comme maintenant, il y a même certains qui ont pu ouvrir des comptes en banque. Donc il faut transporter le cash. Il faut aussi transporter la Bud. Donc il y a aussi des camions donc blindés pour transporter tout ça. Voilà, mais bon, en tout cas, il y en a qui disent que grâce à la légalisation, les gens qui fument et qui n'arrivaient pas à s'insérer ont trouvé des emplois qui ont du sens.
Oui.
Ce qui est vrai. Hein.
Ça, c'est pas con, ouais.
Donc voilà, ça fait donc il y a 15 000 personnes qui travaillent directement dans le secteur. Donc pour beaucoup, c'est un boulot de rêve. Donc c'est la fin de la marginalité, c'est déjà quand même pas mal, hein, la marijuana est devenue grand public. Donc voilà, les gens qui veulent essayer, les gens qui fument donc peuvent faire leur coming out, et ils sont beaucoup plus tranquilles et a priori ils c'est agréable. Quoi.
Ça c'est clair, bah, ça oui, c'est un vrai progrès.
Voilà. Après, il y a tous ceux qui font tout le cannabis autour de produits comestibles. Donc, c'était des gens qui avaient des petites entreprises et donc qui ont profité de ce boom pour arriver à multiplier leur chiffre d'affaires.
Voilà, des opportunistes. Et du coup, la légalisation profite même aux Antilles, finalement, puisque.
Oui, mais ils parlent de certaines success stories. Medicine Man, par exemple, trois générations de Michel la grand-mère avec ses deux petits-enfants. Voilà, quoi, c'est des entreprises familiales aussi. Il n'y a pas que des gros trusts autres.
Bah, on nous parle par exemple
c'est
de l'entreprise.
Quelque part.
Oui, mais bon, on nous parle par exemple de l'entreprise Dixie Elixirs, leader sur le marché des boissons à la marijuana. Voilà, le type qui a monté ça, c'est un gars qui est plutôt un militant opposé à la légalisation. Il a commencé sa carrière dans un think tank ultra conservateur de Washington. Et là, il est arrivé dans le Colorado. Après avoir perdu trois amis dans les attentats du 11 septembre.
Par contre, j'espère que tu as bien compris que quand je disais que c'était le rêve américain, je plaisantais.
Non, j'avais pas compris.
Ou alors, c'est pour l'expliquer, il y en a quelques-uns qui y arrivent, ou qui ont de la chance, qui ont le bon filon et qui vont faire des millions. Et puis, tous les autres bah, qui s'en sortent plus ou moins bien. Il doit y avoir beaucoup de smicards là-dedans, dans les 15 000. Ou même pas dans les 15 000 personnes. Donc,
je suis un peu romantique souvent. Alors du coup, moi personnellement, ça m'emmerde de lire qu'un gars qui était plutôt un anti-cannabis, avec la nouvelle loi, se met à faire du business dedans, que ça l'arrange, qu'il gagne plein de fric. Voilà, ça me saoule.
qu'est-ce que tu veux ? Il y en a qui disent, mais quoi, on fait du business, quoi, c'est tout. T'as rien à dire, c'est le... voilà. C'est le mot d'ordre. Bon, sinon, dans l'article, il y a des trucs qui sont marrantes, comme on voit que des gens ont pris la décision de passer de l'alcool à la marijuana.
Ouais, bon, ça, c'est donc, pas très...
Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Après, oui, donc, comme les comestibles étaient autorisés et qu'il n'y avait aucune loi, il y avait quand même des produits très très forts. Et donc, il y avait beaucoup de petits cookies qui ont été faits. Et donc, ils ont eu quelques cas d'intoxication, et même d'adolescents ou de jeunes, de bébés même, ou de gamins.
Il y a eu un mort
quand même. Il y a eu un
mort. Levi Thamba, 19 ans, jeune Congolais, lauréat d'une bourse d'échange de l'université du Wyoming, qui s'est quand même jeté par la fenêtre du quatrième étage de son hôtel à Denver.
D'accord. Voilà. Bon, on ne sait pas si c'est. Oui, c'est
alors,
peut-être.
Ah oui, mais en même temps, on ne sait pas trop si.
Si c'est la cause ou c'est. Voilà. Bon. Mais bon, d'un autre côté, c'est vrai.
Ça fait un peu de bruit.
En tout cas, ça a fait un peu de bruit.
On n'en a pas entendu parler, nous, ici.
Ils se sont quand même posé la question. Ils ont fait une nouvelle loi et une nouvelle règle. Et donc, les cookies sont limités en dose. On n'a pas le droit de mettre plus de 10 mg dans les cookies.
Ouais. Alors juste une petite chose, parce que là, je pense que c'est pas vrai, quoi. Et comme d'habitude, souvent les journalistes, à l'exception de quelques-unes, qui se sont vraiment intéressés au sujet depuis plusieurs années et qui disent des choses fondées, celui ou celle qui a écrit l'article dit un peu n'importe quoi. Dans le sens, où là on nous dit que maintenant il y a des produits, des plantes sont super fortes parce que on aurait génétiquement modifié les plantes. Sauf que non, en fait l'hybridation c'est pas du génétiquement modifié, monsieur ou madame le journaliste, et que c'est pas la peine d'avoir des plantes génétiquement modifiées pour faire des préparations alimentaires qui sont fortes. Voilà. Et que il y en a déjà des fortes qui poussent naturellement un peu partout dans le monde. Ce qu'ont fait les militants, au départ c'était des militants, c'est qu'ils ont fait un peu le tour du monde, ils ont récupéré différentes...
Très très savamment dosées.
Des hybrides, oui.
Oui.
L'hybridation, non mais l'hybridation c'est pas de la modification génétique. C'est pas pareil.
Oui, mais
ça n'a rien à voir en fait.
On a fait tout pareil pour tous les produits. C'est pas...
Oui non mais c'est grave de dire que la plante est génétiquement modifiée, c'est juste faux. L'hybridation, oui, c'est pas un OGM.
Oui, oui, tout à fait.
Ah, c'est
oui,
tout.
Oui, 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 tout à fait.
Non, mais c'est sérieux, modifié. C'est important la nuance
quand
même.
Oui, tout à fait. Oui, oui, oui.
Et là, encore une fois, au monde, on nous raconte n'importe quoi. Et on vous dira pourquoi à la fin, parce que notre ami Raph a fait un super commentaire. Et tu voulais dire quelque chose et je te laisse la parole.
Non, je voulais simplement dire que quand on fait des croisements de plantes, quelle que soit la plante, oui. on modifie quand même la génétique.
Oui, non, mais attention, c'est pas ça, un OGM.
Mais il ne faut pas faire de l'amalgame avec l'OGM.
Voilà, ils disent pas que c'est un OGM à proprement parler. Ils disent que c'est génétiquement modifié. Alors c'est, ouais, ils sont sur le fil du rasoir. C'est l'interprétation qu'on en fait. Mais je suis d'accord. Il faut appeler le truc.
Non, mais... sauf que l'hybridation, ça permet à la plante elle-même de modifier génétiquement ses aimes.
Mais tu sais, ils sont arrivés à faire leurs tomates pas mûres qui se conservent pendant 15 jours ou 3 semaines. C'est de la modification génétique. Mais c'est pas des OGM. C'est du travail. C'est de l'hybridation.
Non,
c'est de la transformation. La nuance et les deux, ça peut se comprendre. Selon le langage, ça peut se comprendre. Mais c'est pas à proprement parler des organismes génétiquement modifiés. On n'a pas travaillé sur le génome proprement dit de la plante, de façon artificielle.
C'est surtout qu'on n'a pas inséré un gène qui n'appartient pas à la plante. Voilà la grande différence entre l'OGM et l'hybridation.
Merci.
Voilà. J'ai fait des études dans la génétique végétale,
oui,
donc c'est pour ça que je voulais préciser les choses.
Mais t'as bien raison de le faire, t'as bien raison, et c'est vrai que... ça me convainc un peu plus déjà.
Donc du coup, on n'a ni tort ni raison l'un de l'autre, c'est juste que c'est... Voilà, ça porte à confusion. Et... Par contre, voilà. Moi, les choses que j'ai aimées aussi, donc là, je disais que les cookies sont limités. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont pris aussi une campagne d'éducation, start low, go slow. C'est-à-dire, commencer doucement et continuer lentement. Parce que, surtout avec les gâteaux qui montent au bout de 2 heures, si on en prend 2-3 d'affilée, ça peut faire des surprises. Voilà.
Bah oui, puis d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il y en a qui, justement, ne le savaient pas et qui en ont pris un morceau. Très vite, on voulait en prendre un deuxième morceau, un troisième morceau. Globalement, c'est là où il y a un souci. Et d'ailleurs, ce qui fait dire à un docteur, le docteur Andrew Monty, le danger, c'est toujours la dose. Forcément.
Non, mais c'est bien, voilà. Donc, il y a des choses un petit peu intéressantes, c'est vrai que... voilà, donc après, on rappelle que ça fait 80 ans que c'était interdit dans le Colorado, et que c'est bien que ça change. On va voir si ça se passe. Donc, il rappelle juste le dernier, donc à ce jour, donc 4 États américains ont légalisé, donc l'État de Washington... Entre autres, le Colorado, non, il ne les cite pas.
L'Alaska, dernièrement.
Et.
L'Oregon ?
Non, c'était la ville de Washington aussi.
La ville de Washington, l'Oregon aussi.
Et l'Oregon.
Et l'Oregon, là, dernièrement, je crois.
Ah, 17 l'ont dépénalisé, 23 l'autorisent à des fins médicales. Et dans l'opinion, donc, on est passé de 12% dans les années 70 à 51% aujourd'hui.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, pour finir, donc petit commentaire de notre ami Raph qui reprenait une petite citation de l'auteur de l'article qui disait à propos du succès, des les suites de la légalisation, de ce que ça allait provoquer. Il est trop tôt pour le savoir.
Bon, ses conséquences.
C'est les conséquences, voilà. Et donc, il répond très à propos, oui, c'est trop tôt pour le savoir. Surtout si on s'intéresse au cannabis depuis peu, en effet. Aucune autre plante au monde n'a autant été étudiée que le cannabis et tous les rapports qui se sont sérieusement penchés sur la question depuis plus d'un siècle et depuis justement l'Indian Hemp Drugs Commission de 1894. LaGuardia, qui était un maire de New York, avait également ordonné une étude qui a été publiée en 1944, l'étude Wooten en 1968, Ledin en 1970, le rapport Rock plus proche de chez nous en 1998, Nolin au Canada en 2003 et le rapport européen Catania en 2004. Tous ces rapports relativisent la nocivité du cannabis et se prononcent pour une réforme de la loi ou de la légalisation. Voilà, donc voilà, c'est tout.
C'est tout.
Allez, musique.
Ah, on a déjà été trop long.
Ah ben oui.
C'est parti.
Today, so hard to make them understand what you say. But lovers go fighting this musical war. They want them to know what I'm looking for. I never stop fighting, cause I want them to know. I never stop fighting, cause I want them to know. But you know, life is not so long. One day you're gonna lie down in a box. So better check your own direction. Don't you make too much mistakes. Don't make too much mistakes. Don't you make too much mistakes.
Retour en direct.
Après, c'est entendu.
Pardon.
Quoi donc on a écouté?
On a écouté Babylon Circus avec Nosophonie.
Voilà, voilà. Bon, donc, avant de s'attaquer à un autre gros texte et tout, on va passer parler un petit peu de petites actus.
Diverses et variées, voilà. Des sujets dont on a parlé, comme la cocaïne qui avait été volée à la brigade des stops par un policier, donc qui a été mis en examen, et là, a priori, 4 nouvelles mises en examen. Il y a eu 52 kilos qui avaient été volés le 6 août 2014, et donc il y a 6 mois. Donc l'enquête continue, et donc 4 proches ont été...
Quatre proches du policier soupçonné, ouais, ont été mis en examen.
À leur tour, ouais.
Voilà.
Blanchiment de trafic de stupéfiants en bande organisée. Voilà, là, quand même pour 2 millions de poudre qui avaient été volées. C'était pas une bagatelle. Voilà, donc ça fait. Ils en parlent dans l'Express et dans l'Est républicain. Voilà. On n'a pas grand chose d'autre à dire là-dessus, non?
Juste, y a un policier qui disait quand même que pour écouler une telle quantité de marchandises, il y avait quand même des chances pour que les proches de ce policier se soient mis plus ou moins en lien avec des gens du milieu, quoi. Parce que on peut pas. J'entendais ça à la radio, puis bon, là c'est repris un peu dans l'article. Apparemment, il est difficile d'écouler une telle quantité de coke, quoi, comme ça, quoi. En fait, hein, il faut connaître des réseaux de distribution ou en tout cas des gens qui sont intéressés, qui sont prêts à en prendre une certaine quantité. C'est là, on parle pas de 20 grammes ou 200 grammes, c'est 52 kilos quand même. Voilà. Enfin, en tout cas. En tout cas, si jamais vous êtes un trafiquant, que vous vous êtes arrêté avec plusieurs dizaines ou voire centaines de kilos, que ce qui vous est saisi se retrouve dans les scellés du palais de justice ou à la police judiciaire, y a des chances que ce que vous aviez et que vous n'avez plus et qui était
confisqué et mis sous scellé,
voilà, a une deuxième vie après. Voilà. Vous-même, trafiquant, vous êtes arrêté, mais la police elle-même peut s'occuper du trafic, en fait. Voilà, ou des gens proches.
Police ou gendarmerie, on en a déjà entendu plusieurs, plusieurs fois parler. Et puis peut-être même que s'ils connaissent un maton, ils le passent au maton qui va le revendre en prison, puisque là aussi, ça...
Alors, il y a des peines de prison qui sont prononcées des fois contre des policiers. Mais bon, on ne sait jamais, ce que peuvent prendre des trafiquants professionnels entre guillemets, ou voilà, parce que des fois on passe l'éponge, on met une mauvaise note sur le dossier
un petit blâme.
Du fonctionnaire, un petit blâme, et puis on le mute. Voilà. C'est comme ça que ça se passe.
Bon, on va continuer, on va aller faire un petit tour du monde. On va passer par le Brésil. Un médicament dérivé du cannabis a été légalisé. Bon, il s'agit du cannabidiol.
Cannabidiol,
voilà.
C'est pas un médicament, c'est un cannabinoïde.
Oui, mais c'est un médicament dérivé du cannabis. Ah si, il y a bien Ah oui, non,
non,
oui.
Non. C'est le dronabinol. Éventuellement, d'autres noms, mais le cannabidiol. C'est un cannabinoïde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'Agence nationale de surveillance sanitaire brésilienne a tout simplement retiré le cannabidiol, donc ce cannabinoïde, de la liste des produits interdits.
Tout à fait.
Pour permettre justement de fabriquer un médicament où il y aurait du cannabidiol dedans et qui ne pourrait pas être considéré comme un stupéfiant. Voilà, tout simplement. Mais j'avais mis l'article parce que justement, encore une fois, c'était un article du Figaro, il raconte un peu.
Des bêtises. Pas n'importe quoi.
Ou pas, voilà, comme d'habitude, ou presque. C'est tout. En tout cas, voilà, il y a des gens qui attendent un médicament à base de cannabidiol pour se soigner au Brésil, et peut-être qu'ils pourront en avoir un bientôt, et tant mieux. Voilà, tout simplement.
Voilà, sinon au Canada, alors là, c'est une nouvelle réglementation, alors c'est assez... assez difficile, puisqu'ils sont revenus un petit peu sur l'autorisation de planter chez soi, et donc y compris les patients qui se soignent au cannabis pouvaient cultiver à domicile, mais maintenant ils peuvent être poursuivis pour cette culture à domicile, si...
Je t'avoue, j'ai pas super suivi, mais
donc, c'est le gouvernement conservateur qui a perdu sa récente tentative d'empêcher les patients se soignant au cannabis de cultiver leurs médicaments chez eux. Voilà, donc ça a été en fait une bonne nouvelle pour les patients surtout, c'est qu'ils peuvent continuer à cultiver leur cannabis pour se soigner. Et donc, ils peuvent toujours en avoir jusqu'à 6 plants, si je ne me trompe pas, ou alors je confonds aussi avec quelque chose d'autre.
Je crois qu'ils reviennent en arrière hein, sur le texte. Hein. Il me semble que...
Non, il a perdu sa plus récente tentative.
Qui a perdu? J'ai pas compris. Bon, peut-être qu'on en reparlera mieux une prochaine fois si on a mieux.
Voilà, en tout cas, a priori, il y aurait débat pour savoir si le cannabis thérapeutique, quoi, si les patients peuvent continuer à cultiver. C'est vrai que la phrase est tellement tarabiscotée.
Bah, c'est une traduction en même temps. C'est un article posté par Stéphanie sur le site de Sensi Seeds, qui est certainement anglophone et qui. Cet article a bénéficié d'une traduction. Effectivement, c'est pas super clair. Et ben voilà, c'est ça aussi l'information anti-prohibitionniste internationale. C'est que ça vient pas que de France et du Monde ou du Figaro, et que pour d'autres raisons, des fois, on se comprend moins. Parce que bon, traduction égale traduction, voilà. Avançons.
Et l'autre, je crois que c'est aussi un peu pareil, avec un autre article de Sensi Seeds, avec pareil des problèmes de traduction. Donc, c'est au Sénat néerlandais.
Ça concerne les gros shops, c'est ça?
Voilà. Qui a voté une loi en faveur qui a voté une loi sur la pénalisation de la préparation de la culture illégale de chanvre. Donc, ce qu'ils appellent la loi des gros shops. Donc, c'est en fait une loi qui est faite pour qu'ils puissent assigner plus facilement les personnes qui facilitent la culture professionnelle du cannabis.
Professionnelle, attention.
Oui, uniquement. Oui. Donc,
c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes un petit cultivateur et que vous cultivez 5 plantes dans votre jardin aux Pays-Bas, vous ne risquez rien, en fait. Hein. Ceux qui risquent sont exclusivement les vendeurs ou les personnes qui vendent du matériel dans un gros shop et qui savent qu'ils vont vendre des produits à une entreprise professionnelle dont le travail consiste à produire de manière professionnelle, ouais, je vais y arriver, voire industrielle, du cannabis. Donc a priori, ça c'est ça qui va être poursuivi en fait. Et au départ, ils souhaitaient même poursuivre un certain nombre de fabricants de d'engrais dont la communication est exclusivement tournée sur le cannabis. C'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre de fabricants d'engrais néerlandais ont revu tout leur étiquetage et leur com, parce que ça fait déjà un paquet d'années qu'aux Pays-Bas, on les incite à revoir un peu leur copie là-dessus, sinon ils vont avoir des problèmes avec la justice. Donc les fabricants de ces produits, de ces engrais, communiquent plus largement sur la culture d'intérieur ou la culture pour les plantes en général, et pas que sur le cannabis, comme c'était le cas. Nous connaissons en France des personnes qui tiennent des gros shops, et notamment une personne dans l'agglomération lyonnaise, qui, il y a quelques années, sous la pression de la répression des fraudes, lui avait demandé de retirer un certain nombre de produits de ses étalages. Et la plupart de ces produits étaient des produits hollandais. Et visiblement, ils ont modifié un peu leur stratégie, puisque aujourd'hui, ces produits sont de nouveau autorisés à la vente en France, un certain nombre d'entre eux. Et alors, effectivement, au niveau de l'étiquetage des produits, ah ouais, mais ça n'a plus rien à voir, effectivement, ça a complètement, complètement changé. Et c'est pour ça, en fait. Et donc, ce qui se passe là aux Pays-Bas, alors ce qui est pas mal, par contre, c'est qu'ils ont attendu que les entreprises, un certain nombre de fabricants de produits, ont changé un peu tout ça, pour après dire on va voter une loi. Bon, après, la loi, elle ne s'adressera pas qu'à eux, hein, ça s'adressera surtout aux vendeurs, aux gens qui savent pertinemment qu'ils vendent des produits, des graines et des systèmes de culture à des entreprises donc, qui vont cultiver de manière professionnelle.
Tout à fait.
Voilà, le petit autoproducteur, visiblement, n'est pas concerné par ce projet de loi.
Bien que, mine de rien, on rappelle, donc, ce qu'ils peuvent cultiver chez eux, c'est que pour du cannabis thérapeutique, hein, 5 plants maximum en intérieur.
Oui, oui,
en extérieur, chacun peut à peu près avoir un maximum de 5 plantes dans son jardin. Ça reste toléré, ça, toujours. Et pour les plants à l'intérieur, il ne faut pas qu'ils aient des systèmes quand même trop compliqués de filtrage, d'aération. Les tentes ne sont pas tout à fait autorisées.
Voilà. C'est carrément dit, hein, aucun matériel professionnel tel que des lampes et des filtres à air. Il ne faut pas utiliser ça. À ce moment-là... Ouais.
Voilà. Mais bon, je finirai quand même pour dire qu'il y aura toujours une ambiguïté. Parce qu'il y a aussi des magasins à Lyon qui vendent du semi-gros pour toutes les serres autour de Lyon.
Notamment à l'INSA.
Oui,
il y a des
aussi,
serres à l'INSA, par
aussi,
exemple.
Aussi, oui, mais bon, là, c'est de la recherche. Hein. C'est,
mais oui,
c'est
mais ils vont bien acheter leur matos et leur lampe quelque part.
Oui, tout
leur,
à fait. Non,
mais... Leurs réflecteurs, leurs ballasts, les ampoules, enfin, on les voit quand on passe...
Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, il y en a plusieurs. Non, mais c'est pas le... Il y en a partout, hein, d'ailleurs, mais bon... Il y a les... Ça, c'est dans la recherche, dans l'enseignement. Ça, c'est... Mais moi, je parlais plutôt des gens qui font des cultures de fraises, par exemple, hein, en hydroponie,
en hors-sol,
ouais. Et qui se font dans des serres autour de Lyon. Hein, et il y en a qui sont vendues sur place. Quoi. Elles sont fabriquées sur place, mais elles sont toujours aussi insipides que d'autres fraises hydroponiques. Ouais.
Mais visiblement, ils n'ont pas trouvé les bons engrais qui permettent d'avoir du bon goût. Ils ne savent même pas faire, franchement.
C'est peut-être les propriétés, les variétés, je sais pas. Voilà. Bon, bref,
en tout cas, variétés, faut gagner. Hein.
En tout cas, voilà tout ce qu'on peut dire sur cette loi des gros shops. Donc,
en tout cas, c'est certain que ça va faire changer des trucs là-bas si jamais la loi entre en vigueur. Et elle va entrer en vigueur, je crois que c'est.
Et entre autres, la présentation des éléments, quoi.
Ah oui. Moi, je connais certains grainotiers hollandais. Et on les connaît, hein. Toi tu les connais aussi. Hein.
Mm-hmm.
Avec cette nouvelle loi.
Ils vont presque peut-être d'être embêtés. Oui.
C'est ça le paradoxe, c'est que plus le temps va passer, plus ça risque d'être légalisé un peu partout. Mais à côté de ça, on va contrecarrer toutes les possibilités de culture et de consommation un peu partout également. Voilà, donc une avancée des lois autour de la légalisation ne va pas forcément donner lieu à la possibilité d'exprimer plus de liberté pour les amateurs, en fait. Voilà, je pense que malheureusement...
Moi, je me posais une question, elle est peut-être stupide, ma question, mais la question que je me posais par rapport à toutes ces cultures qui se font dans le monde entier en intérieur, sous lampe, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème d'énergie derrière tout ça ? C'est-à-dire quelque chose de plus biologique, enfin on va dire plus respectueux de la planète.
Bah si, maintenant il commence à y avoir des solutions, mais pas que pour ça, hein, pour
voilà.
Un tas de plantes. Oui bien sûr, bah, maintenant on sait très bien...
Et est-ce que cette loi néerlandaise ne cacherait pas aussi un peu ça derrière, quelque part? Je sais pas, enfin c'est peut-être stupide ce que je dis, hein, mais...
Les conservateurs qui ont fait voter cette loi sont loin d'avoir une âme écologique, j'ai l'impression. Mais bon.
Oui, et puis à mon avis, ils font pas ça dans l'esprit de promouvoir l'utilisation de nouvelles lampes moins, enfin plus économiques justement. Je suis pas certain. Je pense que leur objectif, c'est de limiter au maximum la culture et la consommation de cannabis, quelle que soit la manière dont elle a été produite en fait.
Mmh. Enfin, je me posais la question. Voilà, tout simplement. Comme ils n'en parlaient pas, je me suis dit, bon, je sais pas.
On verra. On verra. Bon, il nous reste 12 minutes.
Ouais, bon, on va passer sur les bitcoins, j'y comprends pas grand-chose.
Les bitcoins.
Ouais.
Tu veux parler du Silk, du site Silk Road.
Ouais, tout à fait.
Oui, on a déjà parlé de ce site internet, donc Silk Road, la route de la soie. Coup de théâtre au procès du site de vente de drogue.
Ouais, bah c'est juste que le mec qui est inculpé dit que c'est pas lui en fait, qu'en est un autre. Voilà, il se renvoie la balle et il essaye.
Celui qui s'est retrouvé au tribunal, c'est un certain Ross Ulbricht. Mais en fait, il semblerait que le véritable cerveau de ces opérations, donc qui était en fait un site internet où dessus on pouvait trouver tout un tas de produits stupéfiants, à peu près tout ce qu'on veut. Et donc, Ross Ulbricht, lui, dit, le véritable cerveau des opérations, c'est un certain Mark Karpeles, un Français de 29 ans qui en fait dirigeait jusqu'en 2013 le site d'échange de bitcoins Mt. Gox, c'est comme ça que j'ai compris, sur lequel transitait quand même 76% de la monnaie virtuelle mondiale. Et ouais, c'est quand même assez, assez fou. J'ai lu l'article, c'est un peu...
Un peu foufou, voilà. Bon, donc c'est d'écouter, on verra bien ce qu'il en sera. On va passer de la musique, puis on reviendra sur le dernier article de fond sur la lutte contre la drogue, l'échec.
Et Billy the Kick, ma plante, là, je sais.
Bon, bah.
Voilà, encore une fois, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Moins 20 ans, ouais. Tout ça. Hein. Minimum. Mais une belle chanson, quand même. Voilà. Et ma plante, elle a plus de 2000 ans. Je voudrais leur dire à Billy the Kick. Hein? Non, mais 2000 ans, non. 20 000. Bon, alors. La guerre contre la drogue, bilan d'un échec. Voilà. C'est un article de Pierre Arnaud Chouvy, daté du 13 janvier dernier. Et sur tout ça, c'est sur un site super intéressant que je vous invite à consulter, qui s'appelle lavidesidées.fr, tout attaché, lavidesidées.fr. Il y avait un autre article super bien aussi d'une autre personne qui écrit un truc super bien sur les drogues aussi. Et donc je ne l'ai pas mis parce qu'on avait déjà deux gros articles, mais on en reparlera sans doute plus tard. Et alors là, un sacré article documenté, référencé. Quoi. C'est pas des paroles en l'air.
Un article de 4 pages, de 3 pages.
Non, même pas, de 2 pages.
3 pages.
3 pages.
2-3 pages qu'on va faire en 5 minutes.
Et avec au moins 45 références citées.
Qui commence, lancé il y a plus d'un siècle, la guerre contre la drogue s'est soldée par un échec retentissant, multipliant les trafics, renforçant la production et la consommation, tout en réprimant les paysans producteurs et les consommateurs. Il est temps de donner les moyens à un développement alternatif cohérent. Donc ça a commencé il y a plus d'un siècle, hein, il fait remonter la première production illégale de drogue.
Tu vas nous dire quoi là?
J'allais dire une bêtise. Bah, donc en fait, à peu près il y a un siècle.
La prohibition, ça a commencé en fait avec la première conférence à l'initiative d'un ecclésiaste qui s'appelle Monseigneur Brand, Charles Henry Brand, qui était évêque de l'église épiscopale des États-Unis en poste à Manille aux Philippines. Voilà. Mmh. Et en fait, c'est un dirigeant chinois qui avait. Alors c'est pas dit là, mais nous on le sait, parce qu'on connaît quand même beaucoup de choses. C'est un dirigeant chinois qui avait interpellé Brent, en fait, parce que l'Empire britannique imposait à la Chine le commerce de l'opium, en fait, au nom du libre-échange. Et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Donc Brent est à l'origine de la première conférence internationale de l'opium, une commission qui s'est réunie à Shanghai en 1909, donc, et qui en fait pose les bases de la prohibition de l'usage non thérapeutique des drogues. Voilà. Et le premier traité international qui met en œuvre cette interdiction fut signé à La Haye en 1912, à l'occasion d'une conférence internationale, également présidée par le fameux Brent. Voilà. Et l'objet de cette convention internationale de l'opium était d'établir un contrôle de la production, du commerce et de la consommation de l'opium, mais aussi de morphine, d'héroïne et de cocaïne. Voilà, tout a commencé. Donc, avec la guerre de l'opium en Chine, il faut le rappeler.
Il y a un siècle.
Au 19e.
Ça c'était au 19e. Et, voilà,
et la première conférence en 1906, puis après 1912.
Après, il y a celles sur lesquelles on est. Donc la convention, le protocole internationaux se succèdent. Donc jusqu'à la convention unique en 61.
Et oui, c'est en fait le texte cadre qui fait référence encore aujourd'hui dans le monde entier. Alors là, il faut quand même savoir que
184 États et signataires.
Et que celui qui est à l'origine de la Convention internationale sur les stupéfiants, la Convention unique sur les stupéfiants, c'est Harry Hanslinger, qui est le grand apôtre du Marijuana Tax Act. Donc, Hanslinger, qui est un espèce d'ecclésiaste également à sa manière, qui est celui qui a imposé l'interdiction du cannabis dans tous les États-Unis, puis après en 1937, puis après en 1961, qu'il a imposé au monde entier.
Voilà, donc après on passe très rapidement sur la convention sur les substances psychotropes de 71 et sur la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. 189 États signataires quand même de cette dernière convention. Donc, voilà.
Alors c'est dommage qu'on parle de ça un peu à la fin, il nous reste 2 minutes.
On va très vite là-dessus. Hein.
Ce qu'il faut juste un petit truc rappeler, c'est qu'au début en 1906, il n'y a pas 183 États qui signent la conférence machin, il y en a à peine 30. Hein.
Oui, ça s'est rajouté au fur et à mesure.
Sous la pression des États-Unis, de la France, de l'Angleterre et des grandes principales puissances coloniales et des puissances occidentales après.
Voilà, par contre, depuis les années 70, on remarque que la production agricole et la consommation de drogue ont vraiment augmenté. Et même en allant plus loin, très récemment, il y a 10 ans, en 97,
il y a un
des chefs de la DEA qui a quand même dit devant le Congrès des États-Unis que la disponibilité et la pureté de la cocaïne et de l'héroïne étaient plus élevées que jamais.
En 1995, tout ça.
Voilà, et je pense pas que ça ait beaucoup changé depuis. Voilà, donc après, bon, on explique d'où vient cette guerre. Ça vient de la prohibition elle-même, bien sûr. Ça vient de l'échec des politiques anti-drogue qui amène plus de problèmes que ça en résout.
Alors juste un petit truc important, c'est que l'échec des politiques anti-drogue est aussi dû à la priorité qui a été donnée à la réduction de l'offre, c'est-à-dire la lutte contre ceux qui produisent et qui vendent, plutôt que de se focaliser sur la prise en charge médico-sociale des usagers, donc plutôt de s'intéresser à la baisse de la consommation en s'intéressant aux consommateurs.
Tout à fait, ouais.
Voilà, ça a pas marché, ça. Et ça marche toujours pas.
Ouais, donc après, on fait de plus en plus la guerre à la drogue, mais ça ne sert à rien.
Et aux consommateurs.
Voilà, puisque plus on fait la guerre, plus c'est rentable, et donc plus c'est rentable, plus il y a des cartels.
Plus il y a des risques, et plus ces risques que courent les producteurs, les vendeurs, font augmenter le prix, donc plus c'est rentable, voilà.
Voilà, donc l'article fait le tour de tout ce qui se passe en Amérique du Sud.
Et de beaucoup d'études.
Voilà, de beaucoup d'études, voilà, de chiffres divers et variés. On passe. En Afghanistan aussi, les mêmes problèmes. On a d'ailleurs un autre article dont on ne parlera pas.
On parlera peut-être la semaine prochaine.
Qui explique tout ça. Et enfin, ils expliquent que voilà, ça fait des éradications forcées. Il ne peut pas y avoir de développement alternatif.
Ou alors, s'il y en a un, on consacre très 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 peu de moyens à des cultures alternatives et plus de 80% des moyens à la répression, à la guerre, à des hélicoptères qu'on va utiliser pour balancer des produits toxiques et tout ça. Et en fait, ça marche toujours pas.
Ça marche pas, et en plus, les paysans sont toujours obligés de faire ça puisque c'est à peu près la seule chose qui leur permet de survivre dans certains endroits. Voilà, bref, on a été trop court, on va pas pouvoir se pesantir.
On en reparlera, je pense, la semaine prochaine, parce qu'il est vraiment bien cet article.
Tout à fait.
Voilà, donc avant de se quitter, encore une fois, comme d'habitude, un petit rappel des coordonnées du CIRC, donc le CIRC Lyon, collectif d'information et de recherche cannabique lyonnais, que vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07, par mail cirque-lyon-no-log.org, par voie postale CIRC Lyon BP 93 043 69 605 Villeurbanne Sedex. On a aussi un site internet cirque-lyon. .fr. Voilà, c'est la fin de Cannabis Circus aujourd'hui, lundi 19 janvier 2015. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cannabis Circus. Et en attendant, comme tous les lundis, à partir de 22h, c'est Chasseur de Son. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Et merci de votre fidélité. Au revoir.
Ciao.